Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Bunko, le podcast qui décortique la culture manga. Je suis Pedro et je suis accompagné par mes deux camarades Julien et Max. Salut les gars, comment ça va ?
Eh bien écoute, ça va bien, ça fait un petit moment là qu'on s'était pas réunis là pour enregistrer, ça fait plaisir.
C'est vrai, on avait enchaîné à la fin de l'année 2023. On a pris un peu de temps pour monter le bilan de 2023 qui était très long, mais qui a été apparemment très apprécié, très consommé. Un épisode qui est très écouté. Et toi Max ? Ça va ?
Ça va. Je suis tombé dans ce qu'on appelle une drogue dure. Il y a le nouveau Final Fantasy VII là, qui est sorti. Ils ont eu l'outrecuidance de mettre un jeu de cartes dedans. Et donc j'ai 25 heures de jeu et j'ai 20 heures qui sont allouées au jeu de cartes en fait. Voilà, donc c'est compliqué, mais ça va, je suis ravi de vous retrouver.
Moi je suis retombé dans la drogue des cartes aussi ce mois-ci.
Mais les cardasses, non ?
Ouais, j'ai commencé à racheter les cardasses, donc les fameuses cartes Dragon Ball, des cours de récré au milieu et à la fin des années 90. Il y a une collection en particulier qui s'appelle la collection Super Battle, qui était la plus connue. Elles ont été rééditées l'année dernière au Japon et j'ai commencé à tous les acheter et c'est assez cool quoi de me replonger là-dedans.
Alors Julien il dit rien mais je crois qu'il a des classeurs hein, de cardas cachés.
Ah oui, moi j'ai des classeurs, j'avais même fait une vidéo sur le Patreon où j'avais montré toutes mes cartes une par une, mes holographiques et tout, enfin voilà, fier comme tout.
C'est pas un épisode sur les cardas, on vous prévient.
Ouais, c'est pas un épisode sur les cardas, mais on peut faire un épisode sur les cardas une fois, si vous voulez. Bon, je suis content de vous retrouver, Bunko fête ces 3 ans. Nous avons lancé le podcast en avril 2021 et en rempile pour une 4e saison. On va commencer en douceur cette 4e saison avec un épisode flash, comme on a l'habitude de le faire. Les flashs, ce sont des épisodes courts dans lesquels on revient sur un point d'actualité ou sur un sujet précis traité en moins d'une heure, en théorie.
C'est jamais le cas.
Ah, ça va, des fois c'est le cas. Aujourd'hui, ça va être chaud, ça va être un peu chaud, on verra comment on s'en sort. Dans ce numéro, nous aimerions vous parler d'un auteur majeur de la culture manga, le mangaka le plus prolifique de l'histoire, avec plus de 500 volumes de bandes dessinées publiées au cours de sa carrière. Je parle évidemment de Shotaro Ishinomori. Vous vous en doutez, aborder un artiste avec une œuvre aussi impressionnante, ce n'est pas une tâche aisée, d'autant plus que malgré l'étendue de l'œuvre de Shotaro Ishinomori, il n'y a que quelques titres de l'auteur qui nous sont parvenus en version française. Et par conséquent, malgré l'importance de l'auteur au Japon, ce n'est pas un mangaka qui est très lu dans les pays francophones. Aussi, ce que nous avons décidé de faire dans cet épisode, c'est une première approche de l'œuvre de l'auteur. Comment commencer à découvrir Ishinomori avec ce que nous avons de disponible en version française ? Nous allons dans un premier temps présenter les éléments qui nous semblent essentiels pour comprendre la carrière de Ishinomori. Ensuite, nous allons présenter une sélection de 3 titres, tous disponibles en version française, tous très différents les uns des autres, pour donner un aperçu de la diversité des œuvres que le mangaka pouvait dessiner. Et on terminera en citant quelques œuvres que nous aimerions voir traduites dans le futur en français. Voilà pour le contenu de cet épisode, et sans plus attendre, je vous propose de commencer la discussion.
Bunko !
Alors, pour commencer la discussion et présenter l'auteur, donc le véritable dieu du manga, hein, qui n'est pas Tezuka, voilà, désolé Julien, la vérité doit être établie enfin un jour sur cette terre. Donc notre cher véritable dieu du manga naît un 25 juillet 1938 à Tomé, dans la préfecture de Miyagi. On a des informations assez parcellaire sur son enfance. On sait que à l'âge de 7 ans, donc dans les années 1945, c'était quelqu'un qui était très très proche de sa sœur, qui était fragile de naissance. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'elle avait une insuffisance respiratoire.
Ouais, elle avait de l'asthme. Ouais.
Voilà. Et donc elle sortait pas beaucoup de chez elle, voire pratiquement pas du tout à cette époque-là. Ishinomori, ce qu'il faisait, c'est que il lui racontait des histoires. Il lui lisait des histoires. Il lui a aussi appris à lire, mais généralement il lui racontait des histoires de manière orale. C'était lui des choses qu'il voyait à l'extérieur en tout cas, et il lui rapportait ça de manière journalière. pour essayer en tout cas un petit peu de soulager ses difficultés et de lui faire penser un petit peu à autre chose.
Sachant que c'était sa grande sœur.
Oui, c'était sa grande sœur. Et d'ailleurs, c'est important qu'on le mentionne, hein, parce que cette grande sœur va, on le verra après, mais elle va le suivre beaucoup dans sa vie, dans son parcours de mangaka, et elle va beaucoup marquer sa vie en tout cas. Donc c'est quelqu'un de très important pour Ishinomori. C'est à l'âge de 11 ans. En 1948, alors qu'il est à l'école primaire, qui va découvrir Shin Takarajima de Tezuka. Voilà, donc tu peux être content, Julien. C'est grâce à Tezuka un peu qui va rentrer dans le monde du manga.
Peut-être qu'on rappelle en français oui. Quel est le manga.
C'est La Nouvelle Île au Trésor. Bon, sachant que nous, on a une version qui a été redessinée par Tezuka, donc c'est pas l'original tel que eux l'ont connu, mais ce manga reste quand même un des piliers dans l'histoire du manga, parce que ça a donné énormément. Enfin, il a eu énormément d'impact et ça a donné énormément de vocation pour tous les mangakas de cette génération.
Alors, si vous ne voulez pas lire la nouvelle version, vous pouvez ne plus la trouver chez Issan, hein, puisqu'elle n'est plus dispo maintenant. Voilà, malheureusement. Mais en tout cas, la lecture de cette œuvre-là, ça va lui provoquer un choc. Il va devenir un grand, grand fan de Tezuka. Et c'est 2 ans plus tard, en 1950, vers l'âge de 12-13 ans, il va envoyer une lettre en fait de fan à Tezuka, et Tezuka va lui répondre. Il va lui répondre et c'est à ce moment-là qu'il va être encore plus intéressé par la production de manga. L'année suivante, en 51, donc, il va publier son premier manga, et son premier manga, c'est un Yonkoma. Donc, pour rappeler rapidement, un Yonkoma, c'est un manga court en 4 cases. Il va le publier dans le magazine de son lycée qui s'intitulait le Mainichi Junior High School.
Et même si il commence à l'adolescence à publier quelques petits mangas, notamment dans le magazine du lycée, au début, il ne se projette pas forcément comme mangaka, il se projette comme réalisateur. Mais comme sa sœur aînée est malade et qu'elle est souvent alitée, elle est souvent à la maison, il commence à dessiner ce que lui vit en dehors, qui vit en dehors de l'école, ce qu'il vit quand il va jouer avec ses copains, pour pouvoir montrer à sa sœur sa vie. Et donc, il va y avoir un développement de cette passion pour le manga à l'adolescence, mais ça va toujours être très compliqué au sein de sa famille, parce que son père, qui est une personne, c'est un fonctionnaire d'État, il travaille à la mairie, il est contre l'idée de lire des mangas, puisque les mangas à l'époque sont vraiment associés à de la lecture enfantine. Il est très strict avec son fils, il refuse que son fils dessine du manga, mais pour autant, il va recevoir en deuxième année de lycée un télégramme de Tezuka qui lui demande de venir l'assister, devenir son assistant, et notamment de collaborer pour des œuvres comme Astro Boy, de faire l'ancrage des planches. Et donc ça va insuffler en lui une envie d'aller plus loin, malgré l'avis négatif de son père.
Après, pour recontextualiser, on est au début des années 50, le Japon ressort de la guerre, d'accord ? Donc il est toujours en pleine reconstruction. Bon, on peut entendre aussi la perspective parentale qui est « trouve-toi un poste avec un salaire fixe » plutôt qu'essayer de te lancer dans un métier comme le manga qui est totalement aléatoire. C'est pas tout le monde qui réussit.
Oh, c'est pire que ça, c'est que le manga est même très mal vu à cette époque. C'était pas du tout accepté.
Non, c'est pas du tout perçu comme une carrière artistique. Et il n'est pas encore structuré, il n'y a pas encore le marché qu'il allait devenir dans les décennies suivantes. Et la sœur d'Ishinomori, justement, comme tu le disais, Max, elle va avoir un rôle important, parce que c'est elle qui va réussir à convaincre les parents qu'il faut laisser Ishinomori poursuivre son rêve. Et finalement, il arrive à sortir son premier manga professionnel qui s'appelle Nikutenshi dans le même magazine que Le Roi Léo en 55. Donc à ce moment-là, il a 17 ans.
Ce qui est marrant, pour la petite histoire, c'est que durant la même période, alors c'est un peu flou au niveau des dates, mais durant la même période, il se rassemble aussi avec les enfants de son quartier pour former un groupe d'études et créer un magazine qui va durer que 2 numéros, qui s'appelait le Bokuju Ichidoku. Hein, qui sera aussi envoyé à Tezuka, donc ils n'arrêtent pas, dès qu'il fait un truc, il l'envoie à Tezuka. En fait, ce que j'ai trouvé intéressant avec cette petite info, c'est que parmi les participants de ce magazine, il y avait Fujio Akatsuka, il était là aussi.
Mais envoyer des trucs à Tezuka, ça marche, parce que finalement, une année plus tard, après la publication de son premier manga, il part à Tokyo, il devient l'assistant de Tezuka, il part habiter à la fameuse résidence Tokiwaso, La Tokiwaso, c'est un lieu clé des mangaka de l'époque. C'est une résidence où plusieurs mangaka qui débutent vivent en communauté. Donc il y a, comme tu disais Max, Fujio Akatsuka, qui est notamment l'auteur de Ozomatsu-kun, qui est un shonen classique des années 60, qui n'est jamais arrivé chez nous. Il y a aussi Fujiko Fujio, l'auteur de Doraemon. Il y a également une des rares femmes de la résidence, Hideko Mizuno, qui est une pionnière du shoujo, pionnière du manga féminin, qui est malheureusement toujours non traduite à ce jour en France. C'est assez problématique d'ailleurs. Alors, on peut même lancer un petit message, puisqu'on est écouté par les professionnels. C'est, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est clairement une autrice qui aurait sa place dans une collection comme la collection Héritage de Hakata. Et elle est toujours en vie. Je suis allé regarder, elle a 84 ans. C'est aussi le moment, si on veut l'interviewer, d'aller la voir maintenant, quoi, avant qu'il ne soit trop tard.
Donc là, tu lances un message du coup à Fausto.
Là, je lance un message à Fausto et à Bruno aussi pour la collection Héritage. Mais ouais, en fait, il y a un récit intéressant autour de ces mangaka de la résidence Tokiwaso, parce qu'il y a une émulation qui se crée à ce moment-là, et Ishinomori va vraiment être au cœur de cette émulation. Puisque Tezuka, en plus, y travaille dès 54. Donc, les jeunes auteurs de l'époque croisent Tezuka, se forment avec lui, sont peut-être plus ou moins exploités par lui aussi pour finaliser ses planches. Enfin, on sait que Tezuka avait aussi une très, très grosse production.
Même s'il se faisait exploiter, vous voyez, ça passe comme ça, parce que je vous rappelle, si vous lisez Une ligne entre les marges de Tatsumi, il y a une scène où il rencontre Tezuka, et l'image qu'on a de Tezuka, c'est lui tout souriant avec une auréole solaire derrière, comme si c'était genre vraiment le dieu sur Terre. Donc,
vous êtes des rageux, c'est tout.
Julien, tu dirais que c'est une représentation réaliste.
Tout à fait, l'image du Christ, c'est la même.
Donc je pense qu'il se faisait exploiter, mais avec plaisir. Il le faisait pro bono même, je pense, de décider pour lui.
Je pense que ça devait être quand même une sorte d'honneur de participer à des plus gros succès de l'époque, hein, clairement. Hein.
C'est clair.
Ouais.
Alors, il faut savoir que quand Ishinomori rejoint le Tokiwaso, Tezuka n'y est plus déjà. Hein, donc il est déjà en dehors de ça. Il était un petit peu avant, hein, puisque c'est vraiment entre 53 et fin 54 où il y est. Donc il arrive quasiment un an et demi après, mais ça n'empêche pas Tezuka de passer de temps en temps, ou que les agents de Tezuka viennent demander de l'aide ponctuellement. D'ailleurs, toutes ces infos, on les a pas mal tirées aussi du biopic qu'il y a eu sur Ishinomori, qu'on peut trouver sur Internet, qui est sous-titré en anglais, qui reprend justement toute sa vie, enfin du moins une grosse partie de sa vie, jusqu'au début de son succès, on va dire, et on voit son évolution avec sa sœur Tokiwaso, les événements qu'on va relater juste après, et c'est très intéressant. Alors, c'est pas un chef-d'œuvre en termes de réalisation, etc., mais en termes de valeur historique, ça semble en tout cas être assez fidèle et assez proche et respectueux de la vie d'Ishinomori. Pour continuer, justement, on apprend que Ishinomori et Fujio Akatsuka sont de très bons amis, très liés dans leur travail, dans la vie personnelle, etc. Et il y a un événement qui va aussi faire changer pas mal de choses, c'est que la sœur d'Ishinomori va les rejoindre au Tokiwaso, et en fait va devenir un peu la petite sœur, enfin la grande sœur à tout le monde, et elle va préparer un petit peu leur repas, elle va les accompagner, elle va les aider. D'ailleurs, Akatsuka, on tombe amoureux, du moins en tout cas, c'est ce qui laisse comprendre dans le biopic, hein, même si l'accent n'est pas du tout mis là-dessus. Mais effectivement, je pense que ça devait faire plaisir à tous ces garçons d'avoir une jolie fille avec eux qui prenait soin d'eux pour qu'ils puissent bosser. Et elle, sachant qu'elle avait une condition assez fragile, je pense qu'elle aussi devait se sentir utile. Ça devait lui faire plaisir d'être là et d'avoir une sorte de compagnie de petits frères à s'occuper, quoi.
Mais malheureusement, le 4 avril 1958, qu'est-ce qui se passe ?
Malheureusement, donc Yoshie, qui est donc la sœur, décède à l'âge de 23 ans, justement, de sa faiblesse respiratoire. Et là, ça va être un grand choc pour tout le monde, pour toute la résidence, bien sûr, mais surtout pour son frère, puisqu'on le dit, ils ont eu une relation très proche depuis qu'ils étaient tout petits. Et ça va être un choc qui va faire que même Ishinomori, à un moment, s'arrête. Il va partir en voyage pendant un an et demi, de mémoire. Il va faire un petit peu le tour du monde, il va voir 12 pays, une vingtaine de villes, etc., pour essayer d'oublier, de faire son deuil, même si il a énormément de difficultés à faire son deuil. Et d'ailleurs, dans d'autres séries, l'image du frère et de la sœur vont revenir très souvent. Et chaque fois qu'on va voir justement l'imagerie d'une sœur, on sait immédiatement que ça fait référence à sa sœur à lui, quoi.
Et généralement, c'est une grande sœur et un petit frère, en plus.
Tout à fait, ouais.
Donc voilà pour quelques informations biographiques, quelques repères. On va pas faire la biographie chronologique de toute la carrière de Ishino Mori. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est plutôt de rapidement resituer les univers qu'il a développés. Vous allez le voir, c'est un auteur qui a produit des œuvres dans des styles et des genres très différents. Et je pense que c'est pas mal de pouvoir un petit peu cartographier les contributions qu'il a pu faire dans le manga. Alors, peut-être la première chose à laquelle on peut penser, ce pourquoi il est peut-être le plus connu, je sais pas, en France, c'est la science-fiction, avec notamment Cyborg 009, qui était un succès au Japon. Il s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires, qui a aussi bercé peut-être l'enfance des plus vieux d'entre nous, parce qu'il y avait eu le dessin animé.
On a aussi eu 17 volumes chez Glénat dans l'édition Vintage. Ils sont jamais allés jusqu'à la fin, on attend toujours.
Il y en avait 25 de prévus. Sauf qu'en fait, ils n'ont pas continué, ça ne se vendait absolument pas, et ils n'ont pas proposé d'alternative, au moins en digital. Ils n'ont même pas fait les traductions, ils ont arrêté directement la série après l'annonce du volume 18 qui est resté en suspens pendant très longtemps, quoi. D'ailleurs, ce qui est intéressant avec Cyborg dans cette série, c'est que il s'amuse vraiment avec le transhumanisme où il y a tout un groupe de personnes qui ont été modifiées, mais aussi c'est des personnes qui sont reliées à un pays. Donc c'est un peu les personnes du monde entier. C'est de la SF assez vintage, clairement. Je comprends que c'est du mal à fonctionner parce que je lisais les 17, même en les lisant, j'avoue que la lecture n'était pas hyper agréable, ça avait énormément vieilli. Et je pense que le choix à l'époque d'avoir publié Cyborg 09 était légitime, mais ce n'était pas le format adapté. Soit il fallait faire des gros pavés, soit il fallait faire une sorte d'anthologie avec les meilleures histoires. Et ça aurait largement suffi parce que moi-même qui lisais dans ma collection, je sais même pas si j'ai envie de les relire, en fait.
Mais c'est vrai que ce côté vintage était peut-être un peu repoussoir au moment où il y a eu cette tentative de faire venir le Ishino Mori de la science-fiction en version française, parce qu'il y avait aussi le titre Le Voyage de Ryu, dont on va parler aujourd'hui un peu plus tard.
Ah, tu spoil, tu spoil.
Je spoil, mais bon, je pense que les gens ont lu la description de l'épisode. Et... Le Voyage de Ryu, qui était aussi qui est sorti aussi chez Glénat dans la même collection, la collection Vintage, a aussi eu un arrêt de commercialisation en version physique. Ça montre à quel point c'était compliqué. Peut-être que ça le serait moins aujourd'hui, mais c'était compliqué au moment de la sortie de montrer ce type d'œuvre.
Un des autres grands axes pour lequel on connaît Ishino Mori en termes d'œuvre, alors comme disait Pedro, il y a la science-fiction. Je pense qu'on peut aussi parler d'œuvres d'époque. Il a publié pas mal de titres qui se passent dans un Japon féodal. Je pense notamment donc à un des plus connus qui est Saboichi, dont on va aussi parler tout à l'heure.
Tu spoil !
Je spoil, voilà. Mais comme tu dis, s'ils ont lu la description de l'épisode, ils savent qu'on va en parler. Mais il a aussi publié un titre sur Miyamoto Musashi. Il y en a un autre qui s'appelle Kuzuryu, paru chez Kana. Pareil pour Saboichi. En fait, je constate que toutes les œuvres d'époque que je vais citer sont parues chez Kana. Parce que Okusai, pareil, qu'il a publié en 1987, pareil, a été publié chez Kana. Donc, Okusai, c'est un petit one-shot qui reprend la fin de vie d'Okusai. Alors, ce qui est intéressant, d'ailleurs, en plus, c'est qu'en 1987, il publie Okusai, mais, et j'en reparlerai quand on parlera de Saboichi, mais quand il publie Saboichi en 1966, si on fait attention... Il y a beaucoup de dessins dans Saboichi qui sont des reprises de croquis, vraiment à 100%. C'est-à-dire qu'il a décalqué les croquis du maître Okusai pour les remettre directement dans ses cases de Saboichi. Donc on peut dire un peu que voilà, la boucle est bouclée. À la fin, il parle de Okusai.
C'est intéressant. Hein.
Après, un autre genre où Ishino Mori a su se démarquer et clairement développer, je pense que c'est très certainement le succès pour lequel il est le plus connu et aussi qui est toujours en cours avec des nouvelles séries, des nouvelles adaptations.
Limite, c'est un film par an, presque.
Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Donc, c'est tout ce qui va être tokusatsu. Donc, tokusatsu, alors, c'est un genre qui englobe pas mal de choses. Ça va être, en gros, toutes les séries, films qui ont des effets spéciaux avec, comment dire, une esthétique un peu carton, je dirais, très fin main. Et en fait, ça va englober autant des films comme Godzilla que des Bioman, etc. Donc, c'est vraiment un petit peu toute cette ambiance-là. Et la série la plus connue, c'est Kamen Rider, qui a été fait en 71. Et là, c'est un cross média, c'est-à-dire qu'il y a eu à la fois une série télé live.
Déjà à l'époque. Hein.
Exactement. Et Ishinomori devait s'occuper de la partie manga, mais c'est lui qui a créé les personnages, l'univers, qui a créé ce héros. Et ensuite, la série télé s'est créée aussi à partir de ses travaux à lui. C'est pas une adaptation, en fait. Hein. C'est vraiment une création d'univers. Et Kamen Rider, c'est une personne qui a eu un accident et qui va être transformé par un groupe terroriste, en gros, va devenir aussi un cyborg. Et là, bon, ben, il va se battre contre cette organisation pour se venger. Et bien sûr, ça va être tout un ensemble de monstres qui va tuer à la suite. Et honnêtement, le manga est très cool. Moi, j'aime beaucoup le manga, très dynamique. Je trouve que c'est un bon truc. La seule chose, c'est que voilà, je pense que l'original est très bien. Après, les suites, c'est plus à réserver aux fans du genre, aux fans de la série, quoi.
Déjà, il faudra m'expliquer pourquoi dans le Kamen Rider original, il se fait transformer lors d'une procédure opératoire. Et après, t'as Kamen Rider Amazon, et c'est une tribu amazonienne qui le transforme avec le pouvoir de je sais pas quoi. Du coup, c'est quoi ? C'est de la science-fiction ? Enfin, c'est un mutant changé, modifié génétiquement, ou c'est un pouvoir ancestral, le Kamen Rider ? Hein ?
Je ne sais pas, mais en tout cas, le Kamen Rider, ce qui est intéressant, c'est qu'il a, c'est pas le même héros tout le temps. Et justement, un peu à la Doctor Who, tout ça, ça change. Même en cours de série, le héros peut changer. Et j'avais été assez surpris en lisant le manga. Donc ça, c'est un manga, je pense, d'un point de vue historique, est très intéressant à lire. Et moi, j'ai passé un très bon moment de lecture, même si ça s'est décliné. Et ça, je pense que voilà, c'est pas utile de faire l'intégralité des Kamen Rider pour apprécier la série, quoi.
Mais curieusement, ça n'a jamais vraiment pris chez nous. On a plus été introduit à l'œuvre de Ishinomori par Cyborg 009 que par Kamen Rider. Kamen Rider qui d'ailleurs est en arrêt de commercialisation en France, sauf erreur. Il avait été publié par Issan Manga et aujourd'hui, je crois que c'est assez compliqué de se trouver les volumes.
Disons que voilà, c'est plus disponible en neuf en tout cas. Et puis je pense que le prix ne devait pas aider puisqu'il fallait quand même débourser 60€ pour l'intégrale. Et c'était peut-être aussi un positionnement où le public n'était pas prêt à acheter ça, ou du moins que le public visé uniquement. Et c'est pour ça aussi que ça n'a pas dû aider au succès. Et en plus, en France, nous, on a plus connu Bioman. Alors, même si là, c'est du Sentai, donc c'est des groupes de héros, on a plus connu ça que Kamen Rider. Et je pense que c'est un peu l'erreur, c'est qu'on n'a pas eu Kamen Rider au final en France, et d'où le succès limité, quoi.
J'ai regardé sur Amazon Kamen Rider Black Sun, la série. Là, c'est la dernière en date qui est sortie. Franchement, c'était cool, hein. Je m'attendais pas à passer un aussi beau moment. Alors, bon, y a le budget qui va derrière, mais honnêtement, si vous avez un peu de temps, il y a une seule saison. Si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas. Je recommande, c'est plutôt cool.
Je l'ai pas vu, mais je sais que c'est une vision plus noire, justement, de Kamen Rider, plus adulte. Et je pense que c'est pas mal pour, justement, éviter le côté trop, peut-être des fois ado ou trop action. C'est une bonne alternative, oui.
Et sinon, dans d'autres genres, il faisait aussi à la fois des mangas, gag manga plutôt pour les enfants, et des mangas pour adultes, donc opposés. Il a fait pas mal de gag manga comme Sarutobi et Chan, qui est l'histoire d'une petite fille qui descend de la famille du ninja Sarutobi. Il a fait un manga aussi sur Ganbare Robocon, un robot en formation pour devenir un robot complet qui s'échappe dans le monde des humains. Alors ça, c'est des œuvres qui ne sont pas parvenues. Pour les mangas pour adultes, les mangas érotiques, on a eu des choses. On a eu Hero X SF qui a été édité chez Le Lézard Noir. Hero X SF, c'est une compilation où dans une première partie de l'ouvrage, on a des nouvelles qui mélangent, comme son titre l'indique, de la science-fiction et une dimension plus érotique. Et dans la deuxième partie de l'ouvrage, c'est plus des expériences érotiques, sauf erreur, vécues par l'auteur lui-même, non ?
Tout à fait, ouais.
Quelques chapitres, en tout cas.
Quelques chapitres, ouais.
En tout cas, c'est un ouvrage que j'ai beaucoup aimé, notamment les 200 premières pages, justement, la première partie. Je trouvais que c'était très, très imaginatif. Il y avait toujours des rebondissements. Enfin, voilà, il arrivait à retourner à chaque fois un petit peu la situation.
Ah ouais ? T'as bien aimé l'histoire avec le mec qui se tape une biche ?
Ha ha ha.
Elle t'a plu celle-là?
Je crois qu'il a dit que c'était sa préférée.
Désolé, fallait que je la fasse celle-là. Bon, il a fait des mangas fleuves aussi, hein. Je pense notamment à Hotel, qui est l'un de ses plus connus, qui malheureusement, encore une fois, nous n'avons pas en France. Mais moi, ce qui me fait marrer, c'est qu'il a une catégorie qu'on a nommée « Autre » entre nous, où dedans, en fait, il y a plusieurs titres qu'il a sortis qui sont peut-être parfois un petit peu incongrus. Je pense par exemple au manga sur l'économie japonaise. Alors ça, je vous invite à aller voir la vidéo de Julien. Il a fait une vidéo que vous trouverez sur sa chaîne YouTube. Elle est excellente. Je vous la recommande.
Meilleure description ever de
ouais, ouais,
du manga.
Ouais, vraiment. Si vous vraiment. Allez la voir. Vous savez quoi? On la mettra dans la description de Bunko. Comme ça, vous aurez juste à cliquer sur le lien pour la voir, cette vidéo.
Avec une préface d'un ministre de l'économie. C'était quand même incroyable.
C'est vrai.
Ministre français de l'économie.
C'est vrai. Mais alors, je pense à l'anthologie historique sur l'histoire du Japon en 55 volumes avec coécrite avec des vrais historiens. Il y a eu en 1992, il a fait un Legend of Zelda et il y a aussi la fraude Sherlock Holmes que Julien adore.
Ah oui. Hein. Là où il n'est que superviseur, parce qu'il ne pouvait pas dessiner Sherlock Holmes, personne ne voulait l'autoriser à publier ça. Alors du coup, il a trouvé quelqu'un pour publier ça, quoi.
Ah là 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 là.
Après, il y a beaucoup de choses, hein. On voit qu'il a abordé énormément de thématiques, on n'a fait que survoler très rapidement ce qu'il a fait sur 500 œuvres. On n'en a cité qu'une dizaine, mais c'était surtout pour mettre en avant les grands genres qu'il a pu explorer. Mais en réalité, ça va beaucoup plus loin que ça, hein, puisqu'il a pu écrire des livres de réflexion, il a pu écrire des livres comment devenir mangaka, il a vraiment exploré beaucoup de genres. Des fois, on n'a donné qu'un exemple, mais voilà, il y a plein de mangas érotiques, il y a beaucoup plus de mangas de science-fiction, etc. Ce qu'il faut comprendre surtout, c'est qu'il a une carrière très prolifique. Il a même ouvert un studio d'animation qui s'appelait le studio Zero. Donc voilà, après, c'est un studio qui n'a pas duré dans le temps, mais on voit qu'il a été quand même touche à tout. Et il a essayé d'apporter sa pierre à l'édifice. C'est ça qu'il faut retenir surtout. Et dans sa carrière, finalement, il a eu quelques prix, mais il n'a pas eu tant que ça. Ce qui est assez étonnant, puisqu'on a pu noter 4 prix qu'il a eu. Il a eu en 67 le 7e prix Kodansha pour le manga Mutant Sabu et Cyborg 009. Donc Mutant Sabu, hein, ce n'est pas Sabuichi, hein, c'est encore un autre manga. Il avait pu avoir justement pour Sabuichi l'année suivante le 13e prix Shugakukan. Et après, il faut attendre 20 ans plus tard, en 1988, pour qu'il ait 2 prix en même temps, c'est-à-dire le 33e prix Shugakukan pour Hotel et Manga Nihon Keizai Nihomon. Et après, le 17e grand prix de l'Association japonaise des mangaka pour le même manga, donc Manga Nihon Keizai de Nihon. Donc voilà, il a eu que ces 4 prix, mais bon, ça reste 4 prix assez prestigieux malgré tout.
Bon, et alors, il y a un truc qu'on n'a jamais dit depuis le début quand même, ce serait bien qu'on le dise, c'est qu'il s'appelle pas Ishinomori.
Oui, tout à fait.
Il s'appelle Ishimori. Alors, est-ce qu'il y a l'un de vous deux qui veut raconter la petite histoire?
Alors, si on regarde bien, quand on voit le nom écrit de l'auteur dans les mangas, il y a bien marqué Ishinomori, mais le no est en petit. Il n'est pas en lettres majuscules, comme les autres lettres. Et en fait, il en avait marre, parce qu'à chaque fois qu'il disait son nom, les gens, en fait, entendaient le nom de sa ville. Et du coup, en fait, à chaque fois, il était obligé de répéter que son nom, c'était pas ça, puisque les kanji, en fait, se lisaient de manière différente. Et en 86, il a changé officiellement son nom pour le rajouter afin que les gens ne fassent plus l'erreur. Et justement, dans le biopic, c'est assez drôle parce qu'il explique que tous les gens du Tokiwazo ont toujours continué à l'appeler avec cette erreur-là, un peu comme une marque d'affection, quoi.
Et donc, c'est en 98 qu'il nous quitte. Je crois que c'est en janvier 98 en plus, le même mois de sa naissance d'ailleurs. Il nous quitte à cause d'une insuffisance cardiaque. À titre posthume, il recevra l'Ordre du Soleil Levant, qui est l'équivalent de notre Légion d'honneur en France. Il va aussi obtenir un prix spécial pour l'ensemble de son œuvre, qui est le 2e prix culturel Osamu Tezuka. Et enfin, il aura le grand prix de l'Association des auteurs de bandes dessinées japonais pour le manga Nihon Keizai Nihomon. Alors désolé si je prononce mal, hein, mais voilà.
Alors, on le dit en japonais, mais en fait, c'est le secret de l'économie japonaise, le manga.
Ah ouais, c'est depuis tout à l'heure.
Ah ouais. Ah d'accord. Merci. Merci Julien. Donc en fait, il a eu le grand prix pour ça.
Oui.
Ah d'accord.
C'est étonnant. Hein.
Comme je dis dans la vidéo, hein, ça a été un best-seller. Hein. Ça a ouais, été, ouais. Il était le manga le plus vendu.
Mais c'est étonnant que sur les 500 volumes, c'est ça qu'ils aient décidé de prendre. Quoi.
Après, si, encore une fois, hein, si vous regardez la vidéo du lien, vous comprendrez que c'est une masterclass. Hein.
Et pour finir tout ça, en fait, en 2001, il y a un musée qui ouvre donc dans sa région natale. Et donc, on peut retrouver des vidéos sur Internet si vous êtes justement curieux là-dessus, ou des personnes de visite. Et on voit pas mal de ces mangas, beaucoup de Kamen Rider, bien entendu, beaucoup de Cyborg 009. Mais ça a l'air plutôt sympa à aller visiter. Par contre, c'est un petit peu perdu hein, dans le Japon. Il va falloir explorer le Japon pour y aller. Et en 2007, c'est là où officiellement il gagne, enfin il a le Guinness Book record donc pour l'ensemble de son œuvre, avec 770 œuvres produites regroupées en seulement 500 volumes, qui est plus que Tezuka avec du moins la collection officielle, on va dire. Donc c'est quand même énorme.
Et donc, bon, en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que si on a pu avoir l'excellent film Power Rangers, le film en 1995, c'est grâce à lui et le premier titre de Super Sentai qui était Go Ranger. Sinon, on n'aurait pas eu cet excellent film Power Rangers que je recommande tellement il est nul. Voilà.
Ah, c'est pas vrai. Moi, je l'avais au cinéma le premier. J'avais beaucoup aimé à l'époque.
Mais moi aussi. Il était génial, hein, vraiment. Bon, et par contre, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que ça serait pas mal peut-être d'avoir une exposition de Ishinomori peut-être à Angoulême comme les autres auteurs ont pu avoir. Moi, je trouve que ça manque.
Mais je pensais honnêtement l'année d'Ikigami, ça aurait été Ishinomori en fait. C'est-à-dire que la manière dont ils avaient amené entre justement Tezuka, Tsuge, Mizuki, des visions différentes en fait du manga, d'avoir notre pionnier du manga, et que c'était du coup Ishinomori. Et clairement, ça manque, mais de ce que j'ai cru entendre et comprendre, c'est que aujourd'hui, ça bloquerait plus du côté du Japon, et que Ishinomori Pro, hein, donc la boîte qui gère les droits d'Ishinomori, ne souhaite pas sortir les plans du Japon. Donc du coup, pour l'instant, il faut prendre notre mal en patience si on veut une exposition sur cet auteur. Et en plus, malgré tout, l'Angoulême fait quand même des expositions aussi avec une actualité sur l'auteur. Donc pas de bras, pas de chocolat, hein, comme on dit. Donc du coup, les deux cumulés font que on n'a rien, quoi.
Ouais, c'est ça. En fait, il faudrait peut-être relancer d'un côté la production en France pour peut-être faire changer la position d'Ishimori Puro, Ishimori Production.
Il faut savoir qu'ils étaient là en Angoulême 2018, ils avaient un stand et ils étaient là pour essayer de vendre justement des licences. Bon, on voit que ça n'a pas trop bien marché, hein, parce qu'il n'y a pas eu grand-chose depuis. Mais ils essaient de vendre, toujours pareil, les super-héros. Et chez nous, c'est pas ça qui marche en fait. On a envie d'avoir autre chose et des visages différents de l'auteur.
Il y a toujours cette petite niche d'amateurs de Sentai avec Isan, mais je pense pas que ce soit des ventes faramineuses en France.
Non, ça a l'air très léger, quoi.
Non, clairement pas. Voilà pour cette partie de contextualisation sur qui est l'auteur, quel type d'œuvre est-ce qu'il a pu produire au long de sa carrière. Et maintenant, on va vous parler de trois titres qu'on aime beaucoup et qu'on pense qu'ils peuvent constituer des bonnes portes d'entrée à l'univers de Ishinomori. Bongo!
Bongo!
Nous allons vous présenter, comme dit en préambule de cet épisode, trois œuvres de Ishinomori, trois œuvres qui sont toutes disponibles en version française ou qui vont l'être très prochainement, puisque vous le verrez, un des titres n'est pas encore sorti, mais ce sera le cas dans les prochaines semaines ou les prochains mois s'il y a un peu de retard. Ce sont trois œuvres très différentes les unes des autres, puisqu'on voulait montrer aussi la capacité de l'auteur à créer des genres d'œuvres qui sont très diversifiés. Et le premier titre dont on voudrait parler, c'est Sabu et Ichi. Alors, Sabu et Ichi, c'est une œuvre qui a été éditée entre 66 et 72 dans deux magazines. Au départ, les deux premières années de publication, elles se font dans le Weekly Shonen Sunday, donc dans un shonen. Puis, les quatre années suivantes, c'est dans le Big Comic, donc un seinen, et il va y avoir, on sent la différence en fait, on sent quand même la transition entre le début de Sabu Ishii qui est un petit peu plus shonen, et la fin, ou plutôt une bonne seconde partie de l'œuvre qui est un petit peu plus mature. L'édition originale elle comporte 17 volumes, en version française nous avons eu le titre dans une édition en 4 très gros pavés, publié chez Kana, c'est des volumes de plus de 1000 pages, je crois qu'ils font 1200 pages, non ?
Quasiment, oui.
À peu près chacun.
Ouais, entre 1000 et 1200. Peut-être que je crois que le dernier fait 800 ou 900, okay. Le quatrième.
Ok. Et il faut noter qu'avant la sortie du manga en VF en 2010, il y avait déjà eu une publication de Sabu et Ichi en français, puisqu'il y a eu un chapitre, un seul chapitre, qui est sorti en volume relié indépendant en 79, intitulé « Le vent du Nord est comme le hennissement d'un cheval noir ». Ce volume constitue en réalité tout simplement le premier manga sorti sur le marché francophone. Et on doit ce volume à Atos Takemoto et Rolf Kesselring, les deux personnes qui sont derrière le projet Le Cri qui tue, la première revue de prépublication de manga en version française.
Encore une fois, hein, deux vidéos disponibles sur la chaîne de Julien. On fait ta pub, là. Hein.
Je crois qu'il y a même... T'as pas une vidéo où tu feuillettes tout le magazine et tu...
si. Il y a deux vidéos où je fais l'intégralité des Cri qui tuent.
Donc, si vous voulez lire les Cri qui tuent, qui aujourd'hui sont très chers, vous pouvez faire des arrêts sur image sur la vidéo de Julien et ça marche. Et donc c'est un morceau d'histoire, hein, même pour l'histoire du manga en France, ou en version française, pour être un peu plus inclusif, puisque en plus ça concerne des acteurs suisses de chez moi. Je suis allé regarder...
Oh, le chauvin, quoi, tu sais.
Bah ouais, la Suisse, c'est très... la Suisse a une place très très importante dans l'histoire de la bande dessinée, hein, qui est parfois un peu méconnue. En fait, je suis allé regarder sur Internet parce que ce manga, Le Vent du Nord, est comme le hennissement d'un cheval noir. Pendant des années, il coûtait 2-3 euros. C'était 2-3 balles, c'était hyper facile à se le procurer, personne n'en voulait. Et je suis allé regarder, c'est plus le cas. Donc les dernières copies, à mon avis, peu chères, ont été vendues. Et maintenant, c'est plutôt autour des 200 euros et plus. Mais je rappelle qu'il n'y a pas vraiment de frustration, parce que si vous voulez lire le chapitre de ce manga relié, bah, de toute façon, c'est dans l'édition de Kana en 4 gros volumes. Alors, de quoi parle Sabu Eiichi ? La série, elle se passe durant l'époque d'Edo. La périodisation exacte, sauf erreur, elle n'est pas vraiment donnée, hein. C'est durant le shogunat Tokugawa.
C'est au XVIIIe siècle.
Ok, on suit les aventures de deux personnes. Il y a d'abord Sabu, un jeune investigateur qui est employé d'État et qui est mandaté par le gouvernement pour résoudre des enquêtes et aider la population locale. Dans son travail d'investigation, il est accompagné par Ichi, qui est un vieux masseur aveugle qui a appris à utiliser le sabre pour se défendre. Et on va donc suivre une succession d'enquêtes qui impliquent parfois des meurtres, parfois des mystères à résoudre, parfois des combats, notamment avec Ichi, qui est particulièrement fort et qui protège Sabu. Il n'y a pas vraiment d'avancement d'intrigue tout au long du manga. Il n'y a pas un début de récit, un développement d'une intrigue et une fin particulière. C'est vraiment une collection d'enquêtes, souvent passionnantes à lire, qui montre beaucoup de ce que pouvait être le Japon du shogunat Tokugawa, donc de l'époque d'Edo. Et c'est une lecture qui vous fait voyager dans ce Japon féodal, comme rarement, je trouve, un manga a su le faire. Vous allez découvrir les mœurs, les coutumes de l'époque. C'est aussi intéressant de noter que parfois, les deux protagonistes principaux ne sont pas forcément toujours au centre des histoires. Parfois, on se décentre un petit peu de ces deux protagonistes pour développer des personnages secondaires qui sont toujours très bien écrits et qui contribuent à donner vraiment cette impression de monde vivant dans lequel on est immergé. Moi, à la lecture, c'est une œuvre qui m'a forcément fait un peu penser à Kamui Den pour son côté ultra immersif dans le Japon de l'époque d'Edo. Aussi, par rapport à la version française, tu lis un pavé comme celui de Kamui Den, donc tu as une expérience de lecture.
Je rajouterais même aussi Golgo 13 dans ce côté histoire indépendante.
Mmh, ouais, c'est vrai.
En plus, de toute façon, c'est la même collection. Hein. C'est Kana Sensei pour les deux.
Golgo 13, c'est chez Glénat.
Non, je parle de Kamui Den.
Ah oui, tout à fait, oui.
Et peut-être un dernier point sur le point graphique. Encore aujourd'hui, je trouve ça absolument fantastique. J'ai repris un peu le manga pour la préparation d'épisodes. Et autant au début, les premiers chapitres, ils sont encore très tezukiens.
Ouais.
C'est très des visages ronds, un peu cartoonesques. On sent encore vraiment l'influence très forte de Tezuka sur Ichi no Mori. Mais il y a assez rapidement une évolution graphique. Le trait devient plus mature au fil des pages, avec un découpage qui est toujours très fluide. C'est une marque de fabrique de Ichi no Mori et ça s'approche de plus en plus du seinen.
Alors, bon, je reprends un peu la parole parce que je vais un peu dire ce que je pense de l'œuvre avant de vous laisser parler, messieurs. En gros, Sabu Eiichi, faut savoir que c'est un titre qui incarne quand même assez bien l'essence d'une représentation d'une certaine époque. Ichi no Mori, en fait, à travers Sabu Eiichi, au-delà des histoires qu'il va raconter, d'enquêtes et tout ça, ce que j'ai trouvé très fort, c'est que, comme tu le dis, Pedro, tu l'as très bien dit, c'est que c'est immersif. Mais pourquoi c'est immersif ? C'est parce qu'il reprend certains éléments du réel de l'époque. Et je pense notamment Tu as dit que Sabu, donc c'était une forme de un genre d'enquêteur. En fait, Sabu et Chi, ils sont au service tous les deux d'un Obayun. Et en fait, un Obayun, c'est quoi? C'est un gouverneur de province. Très rapidement, au tout début de l'œuvre, on te présente une organisation très huilée de ce que représentent en fait les gouvernements internes à chaque province. Donc, c'est-à-dire que Sabu, il a un rang. Il a un rang spécifique en tant qu'enquêteur. Et on remarque très rapidement que, bon, c'est vraiment... c'est un petit, quoi. C'est un tout petit dans l'échelle hiérarchique.
Tout à fait.
Il est vraiment tout en bas. Et il doit répondre aux ordres de cet Obayun qu'on voit régulièrement. D'ailleurs, très tezoukien, hein, l'Obayun. Il a le nez énorme, très carré. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Là, pour le coup, c'est vraiment le pur personnage à la Tezuka pour moi. Et d'ailleurs... Effectivement, comme tu le dis, Pedro, je trouve que l'une des forces, justement, de Sabu et Chi, cette force, elle réside dans le développement des personnages qui sont... aucun d'eux n'est blanc ou noir, en fait. Ils sont tous nuancés, même les personnages principaux. C'est pas des gens bien ou mauvais, ils ont leur personnalité, comme tout être humain, en fait, dans le réel. Et Sabu et Chi, malgré leurs différences, c'est-à-dire que, bon, lui, c'est un... Au début, en tout cas, Sabu, il est jeune, il est impulsif, et à côté de ça, on a Ichi, qui est donc ce masseur aveugle, qui incarne la sagesse. Ils vont former un duo qui a une dynamique qui est assez complexe, et moi, j'ai trouvé que l'évolution... Alors, effectivement, il n'y a pas une évolution d'histoire, il n'y a pas un fil rouge, mais il y a une évolution dans la caractérisation et la psychologie des personnages. Et vivre cette évolution-là, moi, je trouve ça captivant. On a une relation qui, quoi qu'il arrive, est fondée sur un respect mutuel et une camaraderie, et c'est au cœur de l'œuvre. Et pour moi, c'est ce qui fait que c'est une histoire qui est vraiment incontournable à suivre. À côté de ça, aussi, je trouve que, et ça, tu l'as dit aussi, Pedro, mais je rebondis parce que c'est vrai, c'est que Ishinomori, en fait, il excelle dans la construction de cet univers. Visuellement, c'est captivant, mais c'est aussi super détaillé. T'as des illustrations en pleine page qui sont super belles. Ça capture à merveille vraiment l'essence de ce Japon féodal. Et à côté de ça, t'as une fluidité dans les mouvements, dans toutes les scènes d'action. T'es jamais perdu, en fait, dans ce que tu lis. En fait, là, c'est là que ça me permet de rebondir sur ce que j'ai dit plus tôt, c'est que si on fait attention dans ces superbes illustrations, en fait, pour rajouter au réel de l'époque, ce qu'il a fait, Ishinomori, c'est qu'il a décalqué des croquis de lieux que Okusai a dessiné lui-même. Donc, moi, j'avais fait un comparatif, vous pouvez retrouver, j'avais fait un thread sur Twitter où j'avais, parce que j'ai acheté le bouquin des croquis d'Okusai, et j'avais fait des comparaisons avec certaines planches de Sabu et Ichi. C'est exactement les mêmes dessins. Vraiment, il a décalqué. Et au final, je trouve ça assez cool, parce que vraiment, ça rajoute un réel dans cette histoire-là. Voilà, ça permet de rendre encore un attrait passionnant à l'œuvre. Et un élément que je trouve assez important, c'est que, OK, il y a une fluidité dans le découpage, mais plus on avance, et je pense que c'est le fait d'être passé d'un manga shonen à un manga seinen, donc d'être passé entre les deux magazines, je trouve qu'il y a même un côté expérimental au découpage. Et plus on avance dans l'œuvre, plus ça part dans de l'expérimental, j'ai trouvé. Les deux derniers tomes, comparé au début, c'est vraiment pas du tout la même chose. Je pense que Julien, il est d'accord avec moi en plus hein, là-dessus.
C'est ce que j'allais rajouter et tu l'as évoqué.
Ok, bon voilà.
Bah, à mon avis, il y a vraiment une contamination d'autres œuvres qu'il faisait en parallèle, parce que vous doutez bien, quand tu fais 500 mangas, 500 volumes reliés, tu fais plein d'histoires en parallèle. Et il y a un autre titre dont on va parler un peu plus tard, où il expérimente beaucoup, et je pense que ça l'influence après sur ces autres séries.
Moi, je pense que ce qui rend aussi Sabu et Chi mémorable, parce que vraiment, je parle de mémorable, c'est que au-delà du dessin et de la caractérisation des personnages, c'est que grâce à ces personnages et à ces personnages secondaires, hein, qui sont vraiment aussi super bien caractérisés, il y en a certains qui sont récurrents, en plus. Il explore des thèmes vraiment universels que je trouve que c'est fait avec une sensibilité assez rare. À travers les aventures de nos deux compères, en fait, il y a vraiment des questions complexes hein, qui sont abordées, telles que qu'est-ce que représente la justice, qu'est-ce que représente l'honneur, c'est quoi la moralité, le sacrifice de soi. Et toutes ces thématiques, en fait, permettent de créer une œuvre que moi je trouve vraiment remarquable, en fait. Vraiment.
Ah, mais je veux que aller dans votre sens. Moi, ça a été une claque quand je l'ai lu la première fois. C'est comme tu dis, hein, c'est un centre d'expérimentation pour lui. Au fur et à mesure où ça avance, moi, j'étais bluffé par les doubles pages, par la manière dont il découpe et surtout la manière dont il amène les histoires. Comme tu disais, Pedro, Sabuichi, c'est pas les personnages principaux par moment. Ils sont juste, des fois, ils n'apparaissent qu'à la fin. Des fois, ils sont là tout le long. Des fois, c'est juste pour faire avancer l'histoire. Et c'est ça où, justement, ce parallèle un peu je faisais avec Golgo 13 de ce côté-là, c'est que comme dans Golgo 13, en fait,
on te présente un univers, en fait.
Voilà, ce qui fait le sel de l'œuvre, en fait, c'est que tu as ces personnages qui sont là et qui vont continuer. Tu t'attaches à eux et tu vas continuer, mais c'est pas pour autant que tu suis toutes leurs aventures. Eux, ils sont là pour résoudre l'enquête. Mmh. Et dans la diversité des histoires, je trouve ça assez fou parce qu'il y a des thématiques qui sont toujours très actuelles. Et comme tu disais, tout n'est pas blanc ou noir, et en fait à chaque fois on se retrouve avec des personnages qui sont, enfin, l'humain en soi, quoi. C'est vraiment l'humain en soi où personne n'est tout blanc, quoi.
Enfin, il y a un élément que j'ai trouvé assez remarquable, là j'y pense en discutant avec vous, c'est que le fait que les deux personnages aient une perspective différente, c'est-à-dire qu'il y en a un qui voit, l'autre il voit pas. Quand tu suis Ichi qui voit pas, moi je sais pas comment il a réussi à faire ça, Ishinomori, mais parfois t'as l'impression de ressentir d'une autre manière, même à travers le dessin, ses sens à lui, sans le fait qu'il puisse voir, d'accord ? Dans le découpage qui est expérimental et tout ça, j'ai trouvé que c'était super, super fort, en fait.
Oui, parce qu'il s'attarde beaucoup justement sur ce qu'il entend, la manière dont...
Ouais, c'est ça, exactement.
La manière dont il perçoit les choses et son analyse. Et c'est ça qui fait justement toute la caractéristique des personnages. Et c'est pareil, dans cet univers, c'est aussi très... Enfin, on peut apprendre beaucoup de choses avec. C'est-à-dire qu'il prend beaucoup de soin à dépeindre autant les décors, les tenues d'époque, mais aussi à expliquer les coutumes et les faits traditionnels, la mentalité, tout le système. En fait, on sort de là. On sort aussi grandi dans le sens où c'est pas qu'un simple divertissement en mode il y a des enquêtes qui sont résolues. En fait, on apprend réellement comment ça se passait au Japon à cette époque-là. Et finalement, on en sort grandi, quoi.
Au final, j'irais même jusqu'à dire l'enquête c'est sympa, mais c'est peut-être même pas le plus important quand tu lis l'histoire. Enfin, plus j'avançais, plus je n'étais pas là pour ça. Vraiment.
Hein. Non, tout à fait, ouais. Non, ça c'est clair. Je ne regrette pas du tout. Moi, l'achat de ces 4 pavés, parce que c'est vrai que ça peut faire peur en se disant « Ah, c'est 4 pavés, ça vaut une trentaine d'euros à chaque fois. » Mais clairement, quand on commence à passer, on va dire, les 200 premières pages, hein, le temps que le manga devienne un petit peu plus adulte, là, on rentre dans un nouvel univers. Et rien que les feuilletés, ça me redonne envie de relire l'intégrale, tellement que ça m'a rappelé de souvenirs dans son découpage ou dans certaines planches sublimes, quoi.
Et justement, c'est important d'en parler, je trouve, aujourd'hui, parce que le premier volume est sorti il y a maintenant presque 14 ans. Et parfois, on a un peu tendance à oublier ce qui est disponible dans le catalogue, dans les fonds de catalogue des éditeurs, parce qu'il y a quand même une logique qui prévaut de lire ce qui est dans l'actualité, d'être toujours dans l'actualité. Et donc, c'est aussi une invitation qu'on vous fait à aller explorer cette œuvre qui est disponible depuis un certain nombre d'années et qui est un chef-d'œuvre. C'est vraiment une œuvre, je pense, clé parmi les mangas qui nous ont été proposés en français.
Ah, pour moi, c'est un indispensable. Hein. C'est vraiment une œuvre que tu as envie de partager et de faire découvrir à tout le monde.
Tout à fait. Je lui donne la note de Gucci Poulet sur 10.
Au moins.
Très bien. Voilà pour le premier titre. Je vous propose de passer au titre suivant, Le Voyage de Ryu.
Alors, donc Le Voyage de Ryu, Ryu no Michi en japonais, c'est un titre qui est paru au Japon entre 1970 et 1971 dans le Shonen Magazine de l'éditeur Kodansha. Le Voyage de Ryu, de quoi ça parle ? Donc ça parle de Ryu qui part en voyage. Voilà. Non, c'est pas vrai. C'est pas ça.
Avec son pique-nique.
Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, Ryu, de quoi ça parle ? Donc, c'est un jeune garçon. Ça se passe dans les années 2020, si je dis pas de bêtises. En tout cas, post-2000 dans l'œuvre. Et suite à un pari avec ses potes, il va s'introduire de manière illégale dans une navette spatiale. Malheureusement, le problème, c'est que c'est un peu con pour lui. Il va s'endormir dans la navette. Il va se réveiller des dizaines d'années plus tard sur une terre qui a complètement changé de visage. Il va se rendre compte qu'il est doté de nouvelles capacités intellectuelles et il va essayer de partir à la recherche d'une civilisation humaine parce qu'il est persuadé quelque part qu'elle a peut-être pas disparu en fait et qu'il doit rester quand même des résidus quelque part. Petit à petit, en avançant dans l'histoire, on va se rendre compte que Ryu il développe des capacités de meneur. Il va rencontrer de nombreux personnages de différentes espèces et voilà, il va lutter contre des monstres, contre des mutants, tout ça dans sa quête de retrouver une certaine forme d'humanité perdue. Ce qui est intéressant avec le voyage de Ryu, moi j'ai trouvé que c'était un titre où Ishinomori il était très inspiré par la littérature et le cinéma occidental. Mmh. Moi, quand j'ai lu Le Voyage de Ryu, j'ai tout de suite pensé à La Planète des Singes, que ce soit le film ou le livre. Pareil, je trouve que les singes, là, l'espèce de singe blanc qu'il y a dans Les Voyages de Ryu, ça m'a fait grave penser à la machine à voyager dans le temps. Les Morlocks qui ressemblent exactement à ça, ceux qui vivent dans les caves, là, dans les profondeurs, les humains modifiés.
2001 aussi, non ? 2001, l'Odyssée de l'espace.
2001, tout à fait, ouais. 2001, l'Odyssée de l'espace. Je sais pas si vous vous souvenez de ces magazines, enfin bon, c'est vieux, hein, nous on les a pas connus, mais les Amazing Stories,
ouais.
Des années 20-30, pareil, qui quand tu regardes les couvertures de ces magazines-là, tu sens qu'il y a une inspiration pour Le Voyage de Ryu. Il y a vraiment des choses qui sont très très similaires.
Il y a même des planches référencées, enfin, qui sont très parlantes. Hein.
Tout à fait. Et alors bon, je vais laisser la parole à Julien qui va un peu plus développer. Moi, j'ai juste à dire une chose sur l'œuvre. C'est encore une fois, tu parlais des doubles pages dans Sabuichi, les doubles pages dans Le Voyage de Ryu, masterclass, vraiment. Hein. T'as des doubles pages qui sont incroyables.
Tout à fait. Alors, il faut savoir que Le Voyage de Ryu, en fait, c'est une trilogie, en réalité. Alors, c'est pas une trilogie avec une suite directe, mais il faut savoir que Ryu se trouve dans trois séries d'Ishinomori. Une qui se passe à l'ère préhistorique, Ryu, et une qui est plus dans le monde contemporain. Mais on retrouve ce même personnage. Et donc, c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir les autres œuvres pour pouvoir faire les liens. Mais il faut savoir donc, que Ryu, c'est une œuvre de science-fiction qui est vraiment fascinante, complexe, et qui aborde de nombreux sujets. Déjà, le point d'entrée du manga, c'est la découverte de la Terre qui a complètement changé. On apprend vite que le récit, justement, il met en lumière, parce qu'en fait, toute la Terre a été modifiée. C'est rempli de plantes invasives, carnivores, des bêtes à deux têtes. Voilà, en gros, pour survivre, c'est un petit peu compliqué. Et le récit va vite mettre en lumière, justement, la fragilité de la civilisation face aux forces de la nature. Tout ce qui est, justement, la faune et la flore ont changé. Et on se demande qu'est-ce qui a pu arriver. Donc, l'histoire d'entrée, elle nous happe rapidement parce qu'elle soulève beaucoup de questions sur ce qui s'est passé, mais aussi va vite mettre en avant l'impact que l'homme peut avoir sur son environnement et justement la pérennité de son empreinte sur la planète. Donc c'est des thématiques qui sont extrêmement actuelles alors que le manga a été fait dans les années 70. Et en fait le récit là va partir sur deux quêtes, à la fois la première celle de retrouver l'humanité puisqu'elle semble avoir disparu de la planète, parce que Ryu, il croit dur comme fer que les valeurs de l'humain, les valeurs de l'humanité sont les plus importantes et sont absolues, alors qu'au fur et à mesure du récit, l'auteur n'aura de cesse de mettre en lumière justement l'absurdité de nos pratiques humaines, comme l'esclavage, l'élevage intensif, ou l'exploitation des ressources naturelles à outrance, et donc ça c'est très intéressant de ce côté-là. Et la deuxième quête, c'est une quête qui est beaucoup plus personnelle, puisque chaque rencontre que Ryu va faire, ça va remettre en question sa propre identité, et sa vision de l'humanité. Il se questionne justement sur qu'est-ce que ça signifie d'être réellement humain par rapport à ses propres biais, ses propres souvenirs, ses propres croyances. Il va devoir remettre tout ça en question, sachant que lui-même, on découvre très rapidement, et ça dès les premiers chapitres, qu'il semble avoir en tout cas des capacités intellectuelles et physiques qui sont au-dessus de la normale et qui éloignent lui-même en fait de l'humain, l'original en fait. Qu'est-ce que c'est qu'être un humain ? En plus de tous ces passages d'avertissement sur l'avenir, le bien fondé des humains, l'auteur, comme tu disais, il nous transporte dans des lieux, des décors qui sont incroyables. On a vraiment l'impression de traverser toutes les époques, puisque au fur et à mesure, on va autant avoir une époque primitive que médiévale, que futuriste, enfin on va vraiment traverser tout ça avec cette esthétique SF rétro que je trouve superbe, avec ses robots ronds, tous ces tableaux plein de boutons, enfin voilà, on est vraiment dans cette SF de cette époque-là. Et là, tu l'as abordé, mais je parle même pas des passages métaphysiques avec ces doubles pages incroyables, on a une succession de doubles pages avec des délires graphiques, c'est tout simplement superbe. Et là, le relire, j'avais déjà eu à l'époque, j'étais resté sur une impression incroyable de ce manga, et le relire, ça confirme en fait mon amour pour ce manga, et je peux que vous conseiller de le découvrir.
C'est un peu embêtant, frustrant qu'il soit peu accessible, parce qu'on le rappelle, il est disponible en version numérique. Je pense que ça bloque beaucoup de lectrices et de lecteurs.
Et réimprimez-le, en fait, c'est bon, là.
Ouais, parce que c'est un manga qui est particulièrement intéressant, je trouve, à lire aujourd'hui. Il résonne beaucoup, en fait, avec notre propre contemporanéité. Il y a dimension écologique que vous avez les deux esquissée, où il questionne vraiment la place de l'humain dans la biodiversité, cette biodiversité qui est constamment là dans l'œuvre de Ryu. Il y a aussi, je trouve, ce discours sous-jacent qui est un peu anti-militariste, notamment quand on découvre Ryu, il débarque dans une planète qui a été ravagée par la guerre. Et c'est quelque chose qui, je pense, résonne tout particulièrement aujourd'hui chez nous, où on a d'une part un génocide qui est en train de se produire devant nos yeux, chez vous, un président de plus en plus taré qui tient toutes les semaines des discours va-t-en-guerre. Cette capacité d'autodestruction des êtres humains, on la vit au quotidien, et c'est ça qui est questionné constamment dans l'œuvre de Ryu. Comment les humains se sont autodétruits et comment il faut aller rechercher notre humanité au sens propre et figuré. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé très puissant et très bien amené dans l'œuvre. Et peut-être aussi, alors on en a déjà parlé, et c'est quelque chose qu'on va le dire pour chacun des trois titres, mais au niveau graphique, c'est juste extraordinaire. Et c'est extraordinaire à quel point c'est toujours aussi beau aujourd'hui, ce mélange de paysages naturels avec une forte densité de végétation et puis cette technologie très rétro-futuriste qui donne une petite vibe vraiment...
J'adore, je trouve ça tellement, tellement stylé en fait.
Ouais, c'est hyper stylé, cette vibe old school des planches et en même temps très détaillée, c'est un mariage qui fonctionne vraiment super bien. Et ce charme vintage de l'œuvre aujourd'hui, c'est encore une qualité supplémentaire irrésistible qui, je pense, qui est arrivée avec le temps.
Mm. En plus, le manga regroupe beaucoup de ces thématiques puisqu'on va rencontrer des mutants, on va rencontrer des cyborgs, on va rencontrer des robots, enfin c'est un sort de melting pot un petit peu de tout ce qu'il aime, et chaque fois il va essayer de pousser la réflexion très loin avec des villes uniquement contrôlées par des robots, des sectes qui reviennent d'époque médiévale, et en fait il retrace un petit peu tous les travers de l'humanité au fil du temps et potentiellement l'avenir, et c'est ça je trouve génial parce qu'il se projette en fait dedans, et surtout l'évolution de Ryu, à chaque fois il est confronté face à sa propre absurdité, donc l'humain qui refuse de voir la vérité en fait, de dire mais en fait l'humanité elle a rien de bien entre guillemets, il peut y avoir des choses bien mais ça ne sert à rien de l'idéaliser. Il y a des vrais problèmes dessus, et lui ne veut pas changer d'un iota, alors qu'il voit que lui-même, les gens qu'il rencontre sont beaucoup plus humains que les humains qu'il imagine, et même lui, finalement, n'est plus réellement humain par rapport à sa définition propre de l'humain. Et tous ces questionnements, je trouve qu'ils sont très bien amenés, très bien abordés. Et l'auteur, même, ce qui m'a surpris, c'est tout ce passage métaphysique qu'il apporte dans l'œuvre, où je ne m'y attendais pas. La première fois que je l'ai lu, j'ai fait « mais waouh, dans quel délire il part ?» Et je trouve ça incroyable, en fait, d'être parti là-dessus, surtout pour un manga qui est censé s'adresser plutôt à un jeune public, hein, de mémoire. Et j'étais surpris de me dire « waouh, on a un niveau, en fait, de réflexion là-dessus » qui, pareil, dépasse le simple divertissement de « je découvre des choses, il y a de l'action, etc. » et proposer à un public plus jeune qui leur permet de réfléchir sur nous, en fait, tout simplement, sur qu'est-ce qu'on est. Chose que j'ai l'impression qu'on ne retrouve presque plus aujourd'hui, ou très peu. On est beaucoup plus aujourd'hui dans le divertissement, même si c'est très bon divertissement, alors que là, ça fusionne les deux.
Voilà, sur l'échelle du poulet, Max.
Là, on est sur du très très gros...
Karagé, là.
Karagé. Karagé Gucci, la totale. Mais ce qui est marrant, c'est que je me suis posé la question, parce que le Voyage de Ruiz termine en 71, en 72 sort Devilman, et en termes de questionnement métaphysique sur l'humain, je trouve qu'il y a pas mal de parallèles qui peuvent être faits entre les deux.
Filiation.
Gonaga, il se cache pas d'être un grand fan de Ishinomori aussi. Donc, je sais pas pourquoi, à chaque fois que je... Enfin, là, j'ai relu, donc, pour le podcast Le Voyage de Ryu, et quand je l'ai fini, je me suis dit « Ah, tiens, j'ai envie de me lire Devilman, du coup.
» Il y a de fortes chances que ça ait influencé aussi indirectement. Hein.
Bon, et alors, du coup, quel est le dernier poulet Karagé sauce Gucci dont on va évoquer aujourd'hui, hein, dans ce flash de moins d'une heure, qui est déjà à 1h20 d'enregistrement?
Exactement. Alors, le nouveau, c'est justement une œuvre assez particulière qui va arriver chez IMHO, si ce n'est pas déjà le cas. Et en fait, ça s'appelle June, ou Magical World June. Et c'est un manga en deux volumes. Et avant de vous parler de l'œuvre, je pense que c'est important de parler de son contexte de création, puisque June a été prépublié dans le magazine Com. Et le magazine Com, c'est le magazine qu'Osamu Tezuka avait créé en décembre 1966.
Il est partout, quoi. Toujours, tout le temps.
Et d'ailleurs, ce magazine était sous-titré le magazine spécialisé pour l'élite du manga.
Ah, c'était vraiment écrit comme ça?
Il faut savoir que le magazine, en réalité, il a été créé en réponse au magazine Garo, hein, le fameux magazine où vous pouvez retrouver un super livre justement chez MHO où on retrouve toute son histoire. Et ce magazine qui a été lancé en 64, et justement à l'intérieur de ce magazine, on a le fameux Camuden, le Garo qui est un magazine d'avant-garde qui va permettre d'avoir une très grande liberté artistique à de très nombreux auteurs et qui aura une forte influence sur la scène artistique. Ben, en fait, Tezuka a voulu un petit peu faire l'équivalent de Garo et a proposé dès le premier numéro à Ishinomori de participer. Et c'est là où Jun a commencé donc sa publication avec cet esprit de liberté. Et effectivement, Ishinomori va prendre cet espace, se l'approprier, et quitte à être en désaccord avec Tezuka lui-même, et justement là-dessus, Jun sera même plus apprécié que les œuvres de Tezuka. Il faut savoir que Tezuka écrivait Phoenix, hein, quand même, dans Com, hein, c'est pas rien. Au point où même Tezuka arrêtera la publication de Jun, ce qui créera à la fois la colère des gens, mais aussi, surtout, une brouille avec Tezuka et Ishinomori. Et même Tezuka ira jusqu'à s'excuser auprès d'Ishinomori d'avoir fait ça, pour vous dire à quel point c'était pas rien. Et pour revenir au manga, le manga se veut être une série de petites histoires où on va suivre le voyage de Jun, le voyage très imagé de Jun, qui face au refus de son père de devenir mangaka, va nous entraîner dans des mondes, des époques, des réalités différentes, le tout en nous proposant énormément d'expériences visuelles. Ce qui nous rappelle l'histoire de quelqu'un où son père ne voulait pas qu'il soit mangaka. Voilà pour la présentation.
Oui, il y a clairement une ambition autobiographique dans cette œuvre, qui pour autant n'est pas une autobiographie à proprement parler, puisque c'est plus les escapades dans le monde imaginaire de Jun slash Ishinomori. Alors, je pense que ce qu'il faut dire, autant prévenir les lectrices et les lecteurs tout de suite, c'est pas un manga pour tout le monde. C'est l'un des mangas les plus expérimentaux que j'ai pu lire dans ma trajectoire de lecteur. Avant de lire l'ouvrage, je pense qu'il faut accepter l'idée de rentrer dans une œuvre qui ne va pas avoir une structure narrative classique. On ne va pas vous raconter une histoire comme vous avez l'habitude d'en lire, avec le développement d'une intrigue et sa résolution. Ici, on a clairement l'impression que l'auteur refuse de nous donner un sens précis au récit, et qu'au contraire, il engage le lecteur à développer sa propre interprétation. Et en ce sens, c'est une œuvre exigeante, puisque nous n'avons pas le confort de lire un manga qui donne toutes les clés de lecture, où l'on peut simplement faire défiler les pages et on comprend tout de suite ce qu'il se passe. Il y a un véritable effort d'imagination et d'interprétation qui doit être fait et qui est demandé au lecteur. Et d'une certaine manière, je trouve que ça nous responsabilise un petit peu. Moi, en lisant Jun, j'avais l'impression que Ishinomori me disait « Regarde, ça, c'est les planches magnifiques que j'ai réussi à dessiner. J'ai réussi à casser les codes, à casser les structures. Si toi, t'arrives pas non plus à casser tes schèmes de lecture, c'est ta faute, mec. » T'as raté, t'es pas à la hauteur de cette lecture. Et en ce sens, c'est pas forcément une expérience qui est accessible ou désirable pour tous. Ceci étant dit, si vous acceptez la proposition de l'auteur, c'est une expérience que je trouve incroyable et que vous ne risquez pas d'oublier. Ishinomori, il va littéralement nous faire voyager à chaque chapitre, s'enfonçant toujours de plus en plus loin dans l'exploration de son imagination. On va changer drastiquement de décor et d'ambiance, parfois d'une planche à l'autre. On va aussi changer de structure en termes de construction des planches, où parfois on a des planches qui sont très découpées, avec plein de cases jusqu'à l'excès. Et parfois, à l'inverse, il n'y a plus de cases. Parfois, les cases vont être découpées de manière verticale. Parfois, il va y avoir une seule grande case dans une double page, mais le dessin déborde complètement de la case. Il y a aussi cette scène dont je pense vous vous souvenez, elle est assez marquante au début du récit, où il y a carrément une page qui est déchirée, où on voit Jun, le personnage, il est en train de dessiner un manga sur une table, et il y a son père hostile à ce qu'il dessine des mangas, on comprend le caractère autobiographique. Son père s'approche et il déchire la page que Jun est en train de dessiner, et en même temps ça déchire aussi la page du lecteur, la structure de la page du lecteur, une page qui sera recollée avec des bouts de scotch un peu plus loin. Et c'est ce genre de petite trouvaille visuelle qui va parsemer le manga. La créativité et la liberté que Ishinomori il a dans cette œuvre est assez hallucinante. Je trouve que c'est vraiment une merveille d'expérimentation. Il y a peut-être aussi un côté un peu psychédélique parfois. Peut-être pas tellement dans l'aspect genre distorsion hypnotique qu'on peut avoir parfois avec les dessins psychédéliques, mais plus dans la manière de... En fait, ça change constamment d'univers et de style. On fait un voyage où on passe d'un imaginaire à un autre, des imaginaires qui dialoguent pas forcément, qui sont très différents les uns des autres. autre. Et je sais pas, à la lecture, je me suis dit, ah, on est en 67, c'est aussi l'arrivée de Pink Floyd, c'est aussi l'arrivée de Surrealistic Pillow de Jefferson Plaine, donc de tout ce rock psychédélique. Et je me demande aussi dans quelle mesure ça influence pas Ishinomori de baigner dans ce contexte musical où tu laisses ton imagination se développer, tu t'acceptes complètement ça et tu plonges dedans. Et je disais aussi que l'auteur ne nous donne pas des pistes d'interprétation de l'œuvre. C'est aussi dû notamment au fait qu'il y a très peu de textes. Il y a des chapitres entiers où il n'y a aucun dialogue, mais pour autant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un truc vraiment de poétique dans la construction des planches et du récit, comme c'était une espèce de poésie visuelle par le découpage, par le style de dessin, par une espèce de flow hyper cool d'images qui s'enchaînent. C'est très déroutant et fascinant en même temps de lire June. On est vraiment à des années-lumière de certaines œuvres qu'il a pu faire. Je ne sais pas si, par exemple, en France, si certains lecteurs connaissent Ishinomori pour les œuvres de Zelda, c'est vraiment le jour et la nuit, quoi. On est... Et voilà, c'est une sorte d'échappatoire, une expérience de lecture qui finalement est assez...
Bah, tu sens clairement que t'es pas sur une œuvre de commande, là.
Et clairement, c'est un truc très, très profond, très personnel, et qui est très cohérent avec ce qu'on avait dit sur Imacho dans le Focus, où on disait qu'Imacho, c'est un éditeur qui vous propose des expériences de lecture. Là, on est clairement sur quelque chose d'assez atypique et vous en ressortirez pas indifférent, en tout cas.
Ouais, mais ce que tu disais justement, il le dit lui-même, puisque je sais pas si ça sera dans la version française, mais il y a des notes d'Ishinomori, des sortes de mémo où il parle à lui-même, et en fait, dedans, il dit qu'il avait essayé justement de dessiner de la poésie. Et clairement, ça se ressent dans sa manière de dessiner, et c'est justement ce point-là qui posera problème à Tezuka, parce que pour lui c'était pas du manga là. On s'éloignait tellement des codes graphiques et narratifs qu'il ne comprenait pas. Et en influence, moi je verrais beaucoup justement l'influence de Garo sur ça, notamment avec Tsuge qui avait cassé un petit peu les codes de justement du manga, mais aussi avec Sasaki, celui qui a fait Charivari, qui a été publié chez Les Arts Noirs.
Ah, complètement, ouais.
Où on retrouve totalement cette esthétique avec des images qui des fois n'ont pas de rapport entre elles et qui t'invitent en fait à imaginer et évoquer des choses dans le manga. Ce que j'aime beaucoup dedans, c'est qu'il se réinvente à chaque chapitre, mais surtout son style graphique change à chaque fois. C'est-à-dire que des fois on a du pointillisme, des fois on a des représentations artistiques. Il y a des moments, bon ben on est sur une structure beaucoup plus classique. Des fois c'est des colonnes très verticales, qui est très typique aussi des Shinomori.
Des fois il fait exprès de revenir au style tezukien. C'est assez marrant. Tu te rappelles, il y a un chapitre préhistoire et la préhistoire il la dessine. Tu vois, le message envoyé aussi à Tezuka, c'est que le chapitre sur la préhistoire, c'est un chapitre dans un style tezukien, quoi.
Non, mais je pense qu'il devait passer des petits messages directement comme ça.
Moi, ce qui m'a un peu marqué à la lecture, c'est si tu contextualise Love dans son époque, j'ai trouvé que June, c'était un personnage très androgyne.
Ah, complètement, ouais.
J'ai trouvé qu'il tranchait avec les personnages un peu des autres mangas de l'époque qui avaient des caractéristiques quand même très archétypales, le mec, la meuf. Et là, avec June, on a un personnage, autant physiquement que psychologiquement, qui est donc assez loin des idéaux de l'époque, qui est très androgyne. Alors, d'un certain côté, ça montre la fragilité, le côté émotif que peut avoir Ishinomori dans son fort intérieur, mais je me dis aussi que ça a dû parler à beaucoup de gens qui ont pu lire l'œuvre, aussi bien des personnes de genre masculin que des personnes de genre féminin. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, Keiko Takemiya, l'autrice de Tutera, a écrit un petit essai sur June parce qu'elle considère que c'est une œuvre révolutionnaire qui a changé ses perspectives sur le médium du manga et qui est, en tout cas pour elle, c'est une œuvre qui est très très importante. Et d'ailleurs, elle a rencontré Ishinomori, et quand Ishinomori lui a dit bah, tu veux quoi comme dessin, je peux t'en faire qu'un seul, elle a demandé un dessin de June dans son bureau, accroché ce dessin toujours à ses côtés en fait.
Je trouve que c'est une série qui est très exutoire pour lui, hein. C'est-à-dire que dès le début, on voit qu'il dessine sa sœur, on voit qu'il dessine ses parents, c'est tout, tous ses remords. June, c'est lui, en fait, hein, qui...
C'est sa thérapie.
Voilà,
hein.
C'est exactement. Et c'est vrai que quand on rajoute cette dimension un peu autobiographique, de manière poétique, ça rajoute aussi un contexte supplémentaire qui rajoute plus d'émotions encore dedans quand tu l'associes à l'homme, en disant, mais en fait, là, il le vit, en fait. Ce qu'il est en train de dessiner, c'est ce qu'il est en train de vivre. Et c'est pas simplement un délire où il se dit, je vais dessiner ça, et puis ça va être joli. C'est, tu sais qu'en fait il ressent ça et il essaye de te l'exprimer, et toi tu essayes de rentrer dans sa peau et de comprendre ses tourments, quoi.
Moi je l'ai un peu pris d'une manière où c'est un exutoire C'est une forme d'introspection qu'il fait. C'est aussi une manière pour lui de vraiment mettre en image et mettre fin à ce deuil qu'il avait depuis des années et auquel il avait peut-être du mal à faire face et ça a été sa manière de le faire. Enfin voilà, le côté expérimental de l'œuvre montre que tout ce côté expérimental, tout ce côté un peu chaotique, entre guillemets, ça montre surtout voilà, les replis de son esprit à lui. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai pris et moi, pour moi, ça, c'est une œuvre qui m'a énormément touché.
Et puis on voit aussi son bagage culturel. Il y a énormément de références, autant de films que de peintres, que de grandes œuvres classiques, et il le distille au fur et à mesure de l'œuvre avec des références directes très souvent. Et on voit que voilà, il a envie de montrer que le manga c'est bien plus large en fait que le médium. Et d'ailleurs, très souvent, les mangakas donnent le conseil de dire en fait, ne lis pas que des mangas, lis tout. Des romans, vois des films, vois des séries, explore le spectre total justement de la culture et c'est comme ça que tu pourras créer des histoires. Et on voit clairement que c'est quelqu'un qui a beaucoup exploré tout ce spectre et c'est une sorte de condensé en fait de tout ce qu'il a pu faire parce que dedans il va mélanger autant de la SF que des récits d'époque, enfin il y a tout à l'intérieur. Alors certes de manière très imagée et plus difficilement accessible qu'une œuvre qui va se lire avec une intrigue qui se développe, mais on va vraiment avoir tous ces styles graphiques, tous ces univers, toutes ces ambiances, c'est un melting pot de tout ça et c'est pour ça que pour moi June c'est un des indispensables et j'avais hâte qu'il arrive en français et de le redécouvrir justement en français.
Ouais, c'est vraiment une chance qu'il soit disponible en français, même si il n'y a pas beaucoup de choses à traduire dans le manga puisqu'il n'y a pas énormément de texte, mais c'est vraiment super que cette œuvre soit disponible. Voilà donc pour ce troisième titre de notre sélection, June, également connu sous le nom de Magical World June, œuvre en deux volumes. Peut-être pour terminer cet épisode sur Ishinomori, est-ce que vous avez des frustrations de lecteur parce que certaines œuvres que vous souhaiteriez lire parmi les 500 plus volumes disponibles au Japon ne sont pas disponibles chez nous ? Est-ce qu'il y a des titres en particulier que vous aimeriez voir en français ?
Moi j'en ai deux. Le premier c'est Hotel. Hotel c'est un titre, c'est un seinen qui est sorti dans les années 80, je crois en 1985, dans le Big Comic.
Ouais, 84 je crois.
84 même, ouais t'as raison. Manga Fleuve, hein, je sais plus à combien de tomes. Mais...
37.
J'allais dire plus d'une trentaine. Et ça raconte quoi ? Bah, ça raconte en fait les parcours et l'activité des différents employés de l'établissement Le Platon, qui est un hôtel de luxe à Tokyo. J'ai pu voir quelques planches et ça a l'air génial. J'ai envie de découvrir ce titre. Maintenant, bon, je sais très bien que 37 volumes, c'est pas envisageable.
Il y a des chances que ce soit des histoires courtes, donc une anthologie, ça pourrait être cool, quoi.
Oui, aussi, c'est vrai, parce que je pense que c'est différentes histoires. Tu suis différents parcours des employés, donc c'est jamais les mêmes personnages. Voilà, une petite anthologie en deux tomes, ne serait-ce que ça. Je suis preneur. Et ensuite, l'autre titre que j'aimerais voir, et on en a déjà parlé plusieurs fois, et ça, je le verrais bien au Lézard Noir, mais bon, comme le Lézard Noir a un peu changé de parcours, peut-être qu'il est plus trop dans cette vibe-là, c'est Sexuadol. Sexuadol en trois tomes avec des hommes qui deviennent des esclaves sexuels, de personnages féminins. Julien, il m'avait montré des planches, ça a l'air incroyable.
Ouais, ben, moi, c'est vrai que c'est compliqué, la frustration, elle est plutôt générale. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à découvrir chez lui que... En fait, c'est compliqué de dire, je veux telle œuvre, parce que je pourrais t'en sortir des dizaines, sauf que je ne les ai pas lues non plus, donc dire ça, c'est indispensable à sortir, c'est pas mon rôle à moi, c'est le rôle d'un éditeur. Mais quand je sais qu'il y a des histoires où il raconte sa vie au Toki Oizo, quand il y a la trilogie, justement, Ryu, on pourrait sortir la suite, on a plein d'histoires un peu érotisantes, on a plein de choses qui ont l'air avec des discours et des thématiques intéressantes, avoir les aperçus, avoir les résumés qu'on peut avoir sur le site officiel, parce qu'il faut savoir que le site officiel qui s'appelle donc ishimoripro.com, on a une très grande partie de sa bibliographie dedans, et en fait des fois on voit des œuvres, je me dis bah, ça a l'air génial ça, j'ai trop envie de le lire, et là je pourrais t'en sortir 30 rien que sur ce site là, donc c'est plus la frustration de me dire bon...
Toi t'aimerais plus qu'il y ait une porte d'entrée vers l'exploration
Quand je vois en fait toutes les œuvres de Tezuka qui sont sortis en France et que je vois à côté Ishinomori, je me dis il y a un juste milieu quoi. et le seul truc qui sort, les derniers trucs qui sont sortis, hormis June qui arrive, c'était des Kamen Rider et des Kamen Rider à moitié terminés. Je me dis il y a quand même autre chose à sortir que ça par rapport à l'auteur. Donc ma frustration elle est générale. Je rejoins bien sûr les titres de Max qu'il a évoqué, mais même là je suis en train de scroller et je me dis mais ça a l'air trop bien. Chaque année il y a deux titres, je me dis sur les 10 là, je me dis celui-là et celui-là il a l'air cool quoi. Juste à l'image quoi.
Je te rejoins. Je partage ton avis. Voilà, nous arrivons au bout de cet épisode flash consacré à Shotaro Ishinomori. Nous espérons que nous vous avons donné quelques envies de lecture des œuvres de cet auteur. Merci de nous avoir écoutés. La saison 4 est lancée. On se donne rendez-vous tout bientôt pour un prochain épisode. À bientôt.
Bye bye.
Au revoir, des bisous.
Bonko Ishinomori.
濡れた体、あなたは誰に会いに行くのかしら。雨が止んだら私は一人、ドアにもたれた涙に見せる。